en direct. Pour ne rien manquer lors de vos déplacements, téléchargez l'application Cogeco Média. Cogeco Média.
98.5. Envie de vous lancer un défi? Participez au Marathon Bénévent de Montréal du 19 au 21 septembre. Choisissez votre distance et découvrez Montréal autrement. Ici, mon marathon était votre marathon. Inscrivez-vous.
À Montréal.
Vous voulez tout savoir.
Vous écoutez les élections fédérales 2025. Les résultats. Retrouvons Philippe Quentin et Valérie Beaudoin, accompagnés de Dimitri Soudas, Philippe Léger et Denis Couture. Au réseau Cogeco Média.
Merci à tous de passer votre soirée électorale avec nous. En tout cas, nous, on est excités parce qu'on a plus de suspense qu'on pensait avant de commencer le début de l'émission. Je rappelle que vous pouvez nous écrire sur la messagerie texte, sur l'application Cogeco Média, la petite bulle dans le coin. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Et je me tourne tout de suite vers Denis Couture parce qu'on a quand même des résultats. Là, il y a plus, les bureaux de vote sont tous fermés là, en ce moment à travers à la grandeur du Canada.
Alors, oui, maintenant que la Colombie-Britannique, en effet, vient de se terminer les bureaux de vote, on va aller faire un tour du côté de la Mauricie. Ici, Saint-Maurice-Champlain, on le disait tantôt, c'est François-Philippe Champagne qui obtient le libéral, le ministre que l'on connaît bien, qui a obtenu cette circonscription. Dans Berthier-Masquinongé, il y avait le retour de Ruth-Hélène Brosseau, la néo-démocrate. Elle est troisième pour l'instant. C'est le libéral Stéphane Bilodeau qui mène, Yves Perron, le bloquiste, qui est deuxième, et Ruth-Hélène Brosseau, troisième. Et pour ce qui est de Trois-Rivières, Caroline Desrochers, la libérale, est en avance avec 14 bureaux de vote sur 269. C'est René Villemur, le bloquiste, qui est deuxième, et Yves Lévesque qui tente pour une troisième fois de se faire élire avec les conservateurs, l'ancien maire de Trois-Rivières, qui arrive troisième.
On va d'ailleurs aller en Mauricie bientôt, oui. Justement, pour reprendre un peu le pouls sur le terrain. Mais Philippe, toi, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu regardes?
Moi, je suis étonné, comme bien des gens, parce qu'on s'est fié aux sondages. Les sondages nous prévoyaient vraiment une domination libérale, notamment dans les provinces de l'Atlantique. Et je pense que la première surprise est venue de là. Pour les gens qui viennent de se joindre à nous, on s'attendait vraiment à un raz-de-marée libéral dans les Maritimes. Ça n'a pas été le cas du tout. Aux dernières nouvelles, les libéraux avaient moins de députés élus dans l'Atlantique que lors de la dernière élection en 2021, quand ils ont formé un gouvernement minoritaire. Alors, dès le début de la soirée, tu le mentionnais il y a un moment, Valérie, tu disais, on a des surprises. Ça a été la première grosse surprise. Et là, on va voir comment ça va se répercuter tout ça dans les prochaines heures. Dans le moment, les libéraux mènent avec près de 99 sièges maintenant. C'est une avance de 23 sur les conservateurs. Mais comment tout ça va véritablement se terminer quand on aura comptabilisé? Bien malin qui peut le prévoir à l'heure actuelle.
Et pour un gouvernement majoritaire, je rappelle que le chiffre magique est 172. Ouais. Alors ce soir, quand on vous parle des résultats, là, plus on s'approche du 172, plus c'est une bonne nouvelle et plus c'est un party pour Mark Carney et moins un nœud dans l'estomac, comme Dimitri tu disais tout à l'heure. Toi, tes impressions à Dimitri?
C'est malgré le fait qu'on se dirige vers une victoire libérale, si cette tendance se maintient, ça sera une minorité libérale. Présentement, nous sommes rendus où nous avons des résultats pour 191 circonscriptions sur 343. Cela veut dire que présentement, pour que les libéraux puissent avoir une majorité, ils doivent gagner un autre 70 comtés. Et on n'est pas rendu à des résultats dans l'Alberta, Saskatchewan, Colombie-Britannique. Ça va être très serré, ça va être très déterminant. Pourquoi? Parce que lors de la dernière élection fédérale, c'était littéralement un partage à trois entre le nouveau Parti démocratique, le Parti libéral et bien sûr les conservateurs. Comment est-ce que l'effondrement du nouveau Parti démocratique va briser? C'est-à-dire, est-ce que la majorité des néo-démocrates vont se rendre vers les conservateurs? Est-ce que ça va donner un avantage, par exemple, aux libéraux? Présentement, malgré le fait que la tendance nous dit que ça va être un gouvernement libéral minoritaire, le grand mécontent, c'est le prochain premier ministre qui s'appelle Mark Carney, parce qu'il voulait un gouvernement majoritaire à tout prix.
Est-ce que, j'ai juste une petite question, est-ce que c'est possible encore un scénario où les conservateurs sont le minoritaire? Est-ce que ça existe, ce scénario-là?
Très difficile. En regardant les circonscriptions, ça veut dire qu'il nous reste à peu près 145 circonscriptions où nous n'avons pas encore de résultats. Il va falloir que les libéraux littéralement s'arrêtent aux 120-125 et que les libéraux les dépassent avec une cinquantaine. Ce n'est pas impossible, mais je dirais c'est improbable.
Ça serait une déconfiture pour les libéraux.
La route, elle est étroite actuellement pour ce scénario-là.
Il faut des gains au Québec, notamment, clairement. Et il y a des comtés là, où ça semble se diriger vers là. Je regarde, par exemple, le comté Abitibi de B. James, Nunavik et You. C'est un bloquiste, une bloquiste, pardon, qui est la députée à l'heure actuelle, Sylvie Bérubé. Mais là, elle traîne de l'arrière contre la libérale Mandy Gull-Masti. Alors ça, c'est peut-être une surprise. Puis on a vu d'ailleurs, François Blanchet est allé en Abitibi à la fin de la campagne.
Oui, et les libéraux ont déployé Mark Miller. J'ai vu sur son compte X déployer Mark Miller parce que c'est aussi une circonscription avec une population autochtone des Premières Nations. Donc, les libéraux ont mis le paquet dans cette circonscription espérant de la prendre.
Est-ce qu'on est prêt pour... on n'est pas encore... Oui, parfait. Alors, on va aller à la première entrevue. Je vous disais tantôt, on va aller faire un tour en Mauricie, mais on va aller à Québec juste avant. On va aller rejoindre notre collègue Philippe-Rodrigue Comeau, journaliste Cogeco Nouvelles au FM 93, qui est au rassemblement, lui, dans Beauport-Limoilou. À quel endroit es-tu exactement, Philippe?
Je suis situé tout juste à côté du non-domicile des Nordiques de Québec, au centre de Vidéotron. On est au Blackstone, qui est comme un peu la cage au sport au Centre Bell. C'est à l'intérieur du centre Vidéotron. Les conservateurs de la région de Québec qui ont décidé de convier leurs partisans ici. Et l'ambiance est toujours bonne au moment où on se parle. Il faut dire que la grande région de Québec est pratiquement acquise aux conservateurs, à l'exception de quelques circonscriptions. C'est toujours très intéressant de suivre ce qui se passe davantage au centre-ville que dans les banlieues, parce que je regardais du côté de la Rive-Nord, Lévis, La Beauce, etc., ça semblait déjà pas mal joué pour ce qui est des conservateurs là, qui sont en avance un peu partout, à l'exception, je pense, de Lévis.
Est-ce qu'on a, c'est donc une meilleure soirée que ce qu'on pensait au départ?
Ben, je pense que pour les conservateurs dans l'ensemble, puis vous l'avez analysé beaucoup depuis le début de la soirée, sûrement, là, on s'attendait peut-être à une balade dans le parc pour les libéraux, puis ça n'en est pas une, ou à tout le moins, là, c'est un peu plus sinueux, et ça fait que ben, la soirée est plus intéressante ici même à Québec, mais déjà en partant, on avait quelque chose d'intéressant à suivre du côté de Québec, parce qu'il y a deux circonscriptions qui appartiennent au Bloc québécois, des députés qui sont sortants, où ça s'est joué de façon très serrée, notamment ici dans Beauport-Limoilou, il y a eu à peu près 1000 voix de différence aux dernières élections entre le Bloc et le Parti conservateur. Et cette année, cette élection-ci, c'est une course à trois. Et je regardais tout à l'heure les chiffres, on est en plein dedans, là. Donc, autant les libéraux, le Bloc, que les conservateurs ont bon espoir d'aller chercher cette circonscription Beauport-Limoilou, qui a été redéfinie d'ailleurs. Puis, ben, ça fait en sorte qu'il y a un petit peu plus de banlieue et un peu d'urbain centre-ville qui sont fusionnés, si on peut dire. Puis, ça pourrait orienter un peu le vote. Ça va être à surveiller.
Philippe, il n'y a toujours pas de résultat hein, dans ce comté-là. Non, je regarde à l'heure actuelle, il n'y a aucune boîte là, qui a été...
J'ai vu une boîte tout à l'heure, mais je pense que c'était plus dans Charlevoix. Mais non, c'est ça, là, c'est dans les sondages, en tout cas, dans ce qu'on suivait, c'était du coude à coude. Vraiment, on s'attend à ce que ça soit serré toute la soirée pour Beauport-Limoilou. Il y a Charlevoix, Côte-de-Beaupré aussi, où là, il y a eu quelques boîtes, et encore une fois, c'était 200 voix de différence entre la première et la troisième position. Et il y a une circonscription où c'est sûr et certain que les conservateurs ne feront aucun gain, et c'est dans Québec-Centre-Ville, Québec-Centre, alors qu'on n'a pas été en mesure de présenter un candidat, là, c'est quand même assez surprenant. Une histoire de paperasse là, qui n'aurait pas été signée à temps pour le déclenchement de la campagne.
Merci beaucoup, Philippe Rodrigue Comeau. Je rappelle que tu es journaliste au FM 93. On va peut-être se reparler plus tard dans la soirée. Alors, s'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe de ton côté, n'hésite pas.
Et dans Bellechasse, les aides-chemins Lévis dont il parlait, là, c'est la libérale qui mène contre le conservateur. C'est la conservatrice, c'est Dominique Vien. Elle arrive deuxième. Glenn O'Farrell, le libéral, qui mène pour l'instant. On n'a que 5 bureaux de scrutin sur 291 qui ont été dépouillés. Et puis, dans Lévis-Lobinière, c'est Jacques Gourde, sans surprise. Le conservateur qui mène. Dans la Beauce, on parle de Jason Grelot, le conservateur, qui a une bonne avance lui aussi sur ses rivaux.
OK, Denis, on va aller à Trois-Rivières parce que c'est un côté qui est très, très, très à surveiller ce soir. C'est une lutte à trois entre les libéraux, le Bloc québécois et les conservateurs. Claude Boucher, journaliste pour Cogeco Nouvelles au 106.9 Mauricie. Salut, Claude.
Bonsoir.
Alors, c'est la libérale à l'heure actuelle qui est en tête.
C'est un peu une surprise, les résultats qu'on a jusqu'à maintenant dans l'élection dans le comté de Trois-Rivières, même si on savait, comme vous l'avez mentionné, Philippe, là, que c'était serré à trois candidats dans le comté de Trois-Rivières. C'est un comté qui est bloquiste depuis les dernières élections, mis à part la vague orange du NPD en 2011 et 2015. C'était revenu au Bloc québécois depuis quelques élections et le bloquiste René Villemur qui pourrait perdre son siège ce soir. Et c'est la candidate libérale Caroline Desrochers actuellement qui est en avance. Les derniers chiffres qu'on avait, elle avait à peu près 500 votes d'avance sur le bloquiste René Villemur. Le conservateur Yves Lévesque, maire de Trois-Rivières, est tombé au troisième rang. Dans le cas de M. Lévesque, c'est la troisième fois qu'il tente de se faire élire comme député fédéral dans le comté de Trois-Rivières. Troisième élection sous trois chefs différents. Alors, ça pourrait être une troisième défaite pour l'ancien maire de Trois-Rivières. Ce qui est particulier dans le cas de Caroline Desrochers, c'est que ce n'était pas le plan A du Parti libéral dans le comté de Trois-Rivières, parce que on l'avait même présenté presque comme candidat, l'ancien directeur général du Centre de services scolaires ici à Trois-Rivières, Luc Galvani. Mais finalement, sa candidature avait été rejetée parce qu'il y avait un casier judiciaire et on avait donc dépêcher Mme Desrochers, qui est une candidate de l'extérieur de la région, qui a une expertise dans le domaine économique, et visiblement, les résultats jusqu'à maintenant sont assez encourageants pour la candidate libérale dans Trois-Rivières.
Bon, 14 bureaux sur 269, il reste quand même beaucoup de boîtes de scrutin à dépouiller, mais il y a une tendance qui commence
avance,
à dégager.
Oui,
ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Claude. On se reparle plus tard dans la soirée.
À tantôt.
Je me tourne vers Dimitri. Tu avais une prédiction pour nous à faire pour l'élection?
C'est plus que clair, le prochain gouvernement du Canada sera un gouvernement libéral.
Et j'ai vu Nouveau Info qui a déjà déclaré que c'était un gouvernement libéral
donc,
aussi.
Alors la grande question, bien sûr, si on sait que ce sera un gouvernement libéral, c'est est-ce que ce sera majoritaire ou minoritaire la tendance, Dimitri, selon toi, à l'heure actuelle?
C'est trop serré. C'est sincèrement trop serré. Ça pourrait être une majorité de deux ou trois circonscriptions, de la même façon que ça pourrait être une minorité où il leur manque. Ce qu'il reste vraiment à déterminer, c'est où est-ce que le bloc. Puis on doit attendre une dizaine de circonscriptions bloquistes pour bien comprendre où va se retrouver le Bloc québécois.
Oui, il reste aussi beaucoup de comtés en Ontario dont les boîtes de scrutin ne sont pas encore sorties. Donc, ça reste extrêmement difficile à savoir si la tendance, elle s'est accélérée aux mains du Parti libéral du Canada. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que ce sont des votes par anticipation qui sortent présentement et que ça accélère une tendance pour le Parti libéral.
Est-ce qu'on commence à avoir une idée des pourcentages de votes dans chacune des provinces, Denis?
Dans les provinces en particulier, non, par contre, parce qu'il est quand même assez tôt, là, parce qu'il y a beaucoup de, il y a pas beaucoup de boîtes de scrutin qui ont été dépouillées. Par contre, dans la couronne de Montréal, ce que Philippe en a parlé beaucoup durant les dernières minutes, ça va bien pour le Bloc québécois. Là. On a dans Mirabel, Jean-Denis Garon qui mène. Dans Rivière-du-Nord, c'est la même chose. Réal-Fortin qui mène également. Dans Terrebonne, c'est Nathalie Sinclair Desgagnés et dans Montcalm, Luc Thériault. Là, je vous parle de la couronne nord. En ce qui concerne la couronne sud, du côté de M. Blanchet, il n'y avait pas vraiment d'inquiétude. Durant la campagne, certains disaient qu'il était peut-être inquiété, mais c'est vraiment pas le cas. Il obtient 50% des votes présentement contre le libéral Nicolas Malouin dans Belleuil-Chambly.
On va continuer notre petit tour du Québec avec nos collaborateurs. On rejoint Antoine Coulombe, qui est journaliste sur notre station Cogeco Kick FM au Lac-Saint-Jean. Donc, Antoine, tu te retrouves au rassemblement du Bloc québécois pour Alexis Brunel-Duceppe, c'est bien ça?
Oui, exactement, au Lion Bleu à Alma. L'ambiance est festive depuis déjà au moins deux bonnes heures et avec les résultats. Ce sont des résultats fragmentaires, mais quand même, on donne déjà une bonne avance à Alexis Brunel-Duceppe, ce qui est étonnant un peu. On s'attendait à une course à deux au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais principalement dans la circonscription de Lac-Saint-Jean avec le Parti conservateur. Et on sous-performe à l'heure actuelle du côté conservateur. On voulait, on s'en cachait pas, là, on voulait vraiment un balayage bloquiste au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et jusqu'à présent, avec des résultats très fragmentaires, on vous le dit encore, là, ça semble bien regarder pour le moment.
Est-ce qu'on sauve donc les meubles pour le Bloc québécois? Y a-t-il une espèce d'espoir que la soirée va peut-être mieux se dérouler que ce que c'était prévu?
On a certainement un espoir et durant cette campagne, particulièrement ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a énormément misé sur la connaissance du terrain, des industries. Ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'industrie forestière, l'industrie de l'aluminium, c'est ultra important et le Bloc québécois s'est vendu comme étant non seulement les meilleurs pour les représenter de Venture, mais pour les meilleurs pour représenter ces entreprises, ces industries devant un monde.
On vous avait promis de revenir à l'antenne lorsque on allait avoir un peu de nouveau. Ben, les résultats commencent tranquillement à se cristalliser, bien que on est encore loin des résultats finaux. Mais pour l'instant, dans la circonscription de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Kataskomique, Témiscouata, Bernard Généreux est en avance avec 766 votes comparativement à 307 pour Rémi Massé.